Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, l'anti-Trumpisme a-t-il trouvé ses limites ? Regonflé à bloc, Donald Trump a sans doute vécu il y a 10 jours une de ses meilleures journées à la Maison-Blanche. Il n'y a pas eu de collusion entre lui, son équipe et la Russie pendant la campagne présidentielle américaine de 2016. C'est ce qui ressort des conclusions de l'enquête du procureur Robert Mueller, dont le ministère de la Justice a publié un résumé. Pour le président américain, c'est une victoire politique importante. Certes, l'intégralité du rapport n'a pas encore été rendue publique, d'autres surprises sont possibles. Mais pour Donald Trump, l'essentiel est fait. Il est blanc comme neige, dit-il, innocent des crimes dont on l'accuse, victime d'un harcèlement injustifié. Alors le président américain a beau jeu de surjouer la victoire. Une partie de la presse américaine et le camp démocrate avaient fait de cette enquête du procureur Mueller leur principal instrument d'opposition à la Maison-Blanche, le scandale qui allait conduire à la destitution de son locataire. The beginning of the end, le début de la fin, comme le proclamaient depuis de longs mois, notamment des experts sur CNN. Alors manifestement, il s'agissait d'un mauvais angle d'attaque contre un président qui n'est pourtant pas, et c'est un euphémisme, exempt de tout reproche. Alors l'anti-Trumpisme a-t-il trouvé ses limites ? C'est la question du soir, en compagnie de trois invités. Laure Mandeville, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, grand reporter au Figaro, ancienne correspondante du journal aux États-Unis. Vous étiez en poste jusqu'en 2016. Et vous aviez signé en 2016, justement, aux éditions des Équateurs, Qui est vraiment Donald Trump, ouvrage, si ma mémoire est bonne, publié avant son élection à la Maison-Blanche. Pour discuter avec vous, Adam Nociter, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous êtes le chef du bureau du New York Times à Paris. Et puis notre troisième invité, elle est au téléphone depuis Washington. Il s'agit de Marie-Cécile Nave. Bonsoir.
Bonsoir.
Washington, où vous achevez un séjour aux États-Unis. Vous êtes politologue, chercheuse associée à l'IRIS et vous avez publié l'an dernier aux éditions textuelles Trump, la revanche de l'homme blanc. Alors je voudrais qu'on commence cette discussion, bien entendu, par cet élément d'actualité. Il y a une dizaine de jours, des éléments du rapport Mueller qui sont publiés par le ministre de la Justice américain, avec cette conclusion qui est faite immédiatement, Trump et son entourage sont disculpés. Est-ce que 10 jours plus tard, Adam Nociter, vous diriez qu'il faut peut-être relativiser ou en tout cas revoir la façon de commenter ce qui a été publié il y a 10 jours.
Écoutez, dans la mesure qu'on ne sait pas tout le contenu du rapport Mueller, je crois qu'il est prématuré de faire un jugement là-dessus. Le fait est que ce dont on sait de cette affaire, les faits qui sont reprochés à Trump, était choquant et demeure choquant. Même si Monsieur Mueller n'a pas trouvé matière à ériger une affaire en justice, le fait est que Trump a ouvertement appelé au piratage des emails de son opposant démocrate. Ce jour-là, les Russes ont suivi sa déclaration, ils ont ingéré dans l'élection et ils se sont ouvertement démenés pour soutenir l'élection de Trump. Les soutiens de Trump, les aides de Trump, des membres de sa famille ont eu des rencontres avec des représentants du Kremlin pour voir si ils peuvent aider la campagne ou non. Donc, tous ces faits demeurent. Ils ont choqué le public américain et ils demeurent choquants.
Vous êtes d'accord avec ça, Laure Mandeville ?
Oui, je suis partiellement d'accord, mais pas totalement. C'est-à-dire que je pense que, effectivement, cette affaire, si elle s'était avérée une collusion, ce qui n'a absolument pas été démontré après 2 ans et demi d'enquête où le procureur spécial Mueller a soulevé chaque petite pierre, je dirais chaque brin d'herbe où il aurait pu avoir un indice de cette collusion, avec une énorme équipe, des milliers de documents qui ont été évalués, des rencontres dans tous les sens, des grands journaux comme le New York Times qui ont mené leur propre enquête, etc., etc. Et au bout du compte, il n'y a pas trace de cette collusion. Et donc je pense que si ça avait été le cas, ça aurait été gravissime. Et c'est vrai qu'il y a eu une tentative de déstabilisation de l'élection présidentielle américaine par la Russie, ce qui en soi comme le disait Adam, est quelque chose de qu'il faut absolument garder à l'esprit et prendre en compte pour la suite. Mais je pense que malgré tout, le fait qu'on n'ait pas trouvé de traces de cette collusion, c'est une incontestable victoire pour Donald Trump. Et c'est aussi, je pense, une forme de leçon pour les démocrates. Parce qu'il me semble que depuis des mois, on était dans un, je dirais, dans un scénario presque hystérique de bataille sur la question de la légitimité de cette élection. Et je crois que il est temps que les démocrates reconnaissent que ce président a été élu véritablement avec tous ses défauts, avec tous ses problèmes, par une partie de la population qui s'est avérée lui donner la présidence. Et qu'il est peut-être temps aujourd'hui que les démocrates, au lieu de s'interroger pour savoir s'il a été mis au pouvoir par Vladimir Poutine, s'interrogent sur les raisons pour lesquelles il a emporté cette élection sur le plan politique. Et donc, d'une certaine manière, fassent l'examen de leur défaite s'ils veulent véritablement contre-attaquer et avoir une chance de gagner en 2020.
Une victoire pour Trump, dites-vous, une leçon pour les démocrates. Est-ce que c'est comme ça que l'on voit aussi les choses aux États-Unis où vous êtes, Marie-Cécile Nave?
Alors, dans les conclusions qu'on n'a pas du rapport Mueller, mais de l'interprétation dans la synthèse de 4 pages de l'attorney général Barr, il y a cette affaire de collusion qui n'est pas prouvée. Il y a aussi la question de l'obstruction éventuelle à la justice mené par Trump, qui là non plus n'est pas prouvé. Et sur les chaînes d'information aux États-Unis, on voit beaucoup en ce moment l'équipe de Mueller qui se dit un peu frustrée, un peu navrée de voir que ce que on dit l'attorney général Barr ne correspond pas tellement à ce qu'eux, ils ont écrit dans la synthèse. Mais sur CNN hier, il y avait un débat très intéressant où les journalistes disaient, concernant le rapport Mueller, la première impression de l'opinion publique est la bonne. Et en fait, l'attorney général Barr, qui a fait cette synthèse de 4 pages, a imposé le récit, il a imposé le narrative, et ce récit, c'est celui d'une victoire de Trump. Et Trump, on le sait, adore gagner. Il résume souvent le monde entre les gagnants et les perdants, et aujourd'hui, il a retrouvé la confiance. Il est dans un temps de la revanche, il le dit lui-même, d'ailleurs, par rapport à ses adversaires, il se moque d'eux. Il est beaucoup plus en confiance qu'au début de l'année avec un moment un peu difficile, le shutdown, l'effritement de sa popularité, etc. Donc même s'il y a encore des enquêtes en cours dans les tribunaux, à la Chambre, même si aujourd'hui, on en parlera peut-être tout à l'heure, les démocrates sont en train de demander sa déclaration fiscale, eh bien ces enquêtes, elles sont décrédibilisées suite à ce résumé de 4 pages. Et puis le temps joue pour Trump, parce que ces enquêtes, elles prendront des mois, et le temps administratif et judiciaire est long, alors que le temps politique et le temps de la communication est immédiat. Et finalement, peut-être que les démocrates, non seulement les démocrates à la Chambre, mais les démocrates qui sont candidats à l'investiture, et c'est pas forcément complètement les mêmes qui aujourd'hui sont dans l'opposition à Trump, ont tout intérêt à mettre un petit peu ça de côté pour se concentrer sur l'agenda, sur leur projet, sur leur propre récit, sur finalement ce qu'ils ont envie de proposer aux Américains pour les élections de 2020.
Voilà, peut-être davantage penser à leur programme et peut-être un peu moins miser sur un soutien de la justice dont on voit bien, même si, on le répète, l'intégralité du rapport n'a pas encore été rendue publique. Ça devrait venir dans les prochains jours, mais voilà. On voit aussi que voilà, ça interroge la stratégie. Mais est-ce qu'en effet, Adam Nociter, la principale leçon provisoire sans doute, mais néanmoins leçon à tirer de cette affaire, c'est que Trump, même si, comme vous le disiez tout à l'heure, est confronté à un certain nombre de problèmes et de mises en cause, Trump aujourd'hui sort victorieux de cette confrontation.
Le rapport Mueller est absolument explicite en fait. Trump n'est pas exonéré. Il dit ça clairement. Il reste des zones d'ombre. Et d'ailleurs, ça se voit dans la réaction du public américain qui n'exonère pas Donald Trump. Une grande pluralité des Américains considèrent que le rapport Mueller ne l'exonère pas. Donc, il reste en quelque sorte coupable, soit de l'obstruction de la justice, soit de quelque chose d'autre. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que au moins une demi-douzaine de ses plus proches conseillers ont été inculpés, condamnés au cours de cette affaire. Son ancien directeur de campagne, son adjoint pour la sécurité nationale, et ainsi de suite. Prétendre que Trump a gagné une large victoire avec le rapport Mueller est fausse. Maintenant, est-ce que les démocrates doivent miser toujours sur la légitimité ou pas de Donald Trump? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Je ne sais pas. Peut-être pas quand même. Et d'ailleurs, on voit que Nancy Pelosi, la présidente du Chambre des représentants, a balayé il y a quelques jours, même avant le rapport Mueller, la possibilité d'un procès en destitution. Donc on mise pas sur cela. On mise sur sa défaite dans les élections de 2020.
Mais quand même, il y a, me semble-t-il, une contradiction dans ce que vous dites. C'est-à-dire on ne mise pas sur cela et en même temps, vous dites quand même, Trump reste coupable. Et si la justice ne considère pas qu'il est coupable, Adam Nocitaire, c'est donc qu'il est innocent.
Je ne dis pas qu'il reste coupable. Ça, c'est à voir, parce qu'il y a plusieurs enquêtes qui sont en cours sur beaucoup d'affaires. Il est visé par la justice de l'État de New York. Il est visé par le procureur fédéral de New York. Il ne sort pas libre. Mais il faut se rappeler que Mueller a dit explicitement, encore une fois, que Trump n'est pas exonéré par son rapport. On ne sait tout simplement pas. Et la question majeure de l'obstruction de la justice, ça reste en attente.
Normandville.
Oui, alors moi je trouve quand même que on peut pas effectivement dire par exemple il n'y a pas de preuve mais il est quand même peut-être coupable. Le rapport quand même conclut au fait qu'il n'y a pas eu de collusion prouvée. Il n'y a pas eu de collusion entre Trump et le pouvoir russe. Qu'il y ait eu des gens qui aient été inculpés dans son entourage, ça tout le monde le reconnaît, c'est tout à fait juste, mais cela n'a rien à voir avec la question qui était la question clé, la question majeure politique d'une collusion avec Moscou. C'est ça le fait gravissime, et c'est ça qui a fait que depuis 2 ans et demi, quasiment tous les mois, moi, à chaque fois que j'allais aux États-Unis ou que je parlais avec des Américains qui étaient adversaires de cette administration, ils annonçaient la destitution de Trump pour dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, en disant « he's out ». Il va partir. Tu verras, d'ici la fin de l'année, Trump ne sera plus au pouvoir.
Est-ce que vous rangez d'ailleurs, leur Mandeville, est-ce que vous rangez le New York Times dans ses opposants à Trump?
Je pense que le New York Times a essayé de faire son travail. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose d'extrêmement grave. Qu'ils soient dans l'opposition à Trump, ça d'une certaine manière, ils le sont, c'est assez clair. Mais c'est un grand journal extrêmement sérieux et qui a vu là un sujet qui leur paraissait absolument majeur, puisque c'est vrai que s'il y avait eu une collusion entre Trump et la Russie, on aurait été dans un cas extrêmement difficile. Mais c'est pas le cas. Et donc aujourd'hui, il me semble quand même qu'il faut reconnaître qu'il y a eu une démarche, une sorte d'empoignade politique qui par moment était également complètement irrationnel. Et donc je pense qu'il est quand même indispensable d'en sortir. Ce qui est intéressant dans ce que dit Adam, c'est qu'il dit au fond, une grande pluralité de gens de la société américaine ne croient pas qu'il a été innocenté. Au fond, continue de penser qu'il est coupable de quelque chose. Ce qui est intéressant...
Peut-être pas juridiquement.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre dans quelle situation sont les États-Unis aujourd'hui. Les États-Unis sont dans une situation de guerre politique absolue, où on a une sorte de diabolisation de l'adversaire qui est systématique. C'est-à-dire, il ne peut être que coupable. Et de l'autre côté, d'ailleurs, la manière dont Trump va maximiser sa victoire, il va tirer profit de cet élément-là, va être évidemment une tentative pour discréditer d'une manière violente et brutale l'adversaire. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de centre rationnel qui est la tête froide dans ce pays et qui soit capable...
C'est pas
qu'ils soient capables de regarder la réalité politique de manière, comment dire, apaisée.
Oui. Non, mais c'est pas seulement le public américain qui a atteint cette conclusion. C'est Mueller lui-même qui dit explicitement, une fois de plus, ce rapport n'exonère pas le président. Et il faut interpréter cela comme on peut.
Mais Adam Nocita, est-ce qu'il n'y a pas, après je vais revenir vers Marie-Cécile Nave, mais est-ce qu'il n'y a pas une difficulté, vous allez me dire si c'est le cas ou pas, quand on appartient à un grand journal comme le vôtre, donc le New York Times, que Laure Mandeville, classé alors dans l'opposition, disons, à Donald Trump, à reconnaître que ce rapport, s'il n'exonère peut-être pas Donald Trump, complexifie en tout cas la question. C'est-à-dire qu'on avait quand même l'impression que cette collusion, elle allait être définitivement prouvée par le rapport du procureur, la collusion entre l'équipe de Trump et la Russie, et que, au bout du compte, ce n'est pas ce qui est constaté. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté à sortir finalement de cette opposition-là, à reconnaître simplement que finalement Trump n'est peut-être pas coupable de ce qu'on lui reproche?
Je crois que chez nous comme ailleurs, dans les milieux sérieux, on attendait justement les conclusions de Robert Mueller. Est-ce que Mueller serait en mesure de monter une affaire en justice sur la base des données qu'on connaissait et qu'on ne connaissait pas? En fin de compte, non, il n'a pas pu. Mais demeure que les faits qui sont sur la place publique, que nous avons dûment rapportés, restent, comme je disais tout à l'heure, absolument choquants. Moi, en tant que citoyen américain, à part quelques désapprobations que j'éprouve pour Trump ou non, je continue de le trouver absolument choquant. Le fait que Trump a appelé aux Russes pendant la campagne, à s'ingérer dans cette campagne, à pirater. Il a appelé les Russes à pirater les emails de Hillary Clinton, ce que les Russes ont tout de suite fait. Ça, je trouve, je continue en tant que citoyen d'être absolument interloqué par cela.
Est-ce que ça pose le débat de la crédibilité des médias aux États-Unis, Marie-Cécile Nave, cette affaire?
D'abord, cette affaire, elle n'est pas terminée sur le fond, parce que si le rapport en intégralité ou en enlevant les parties très secrètes, parce qu'il y a des témoignages qui n'ont pas forcément vocation à être rendus publics, qui ont été faits devant le Congrès ou devant la justice, est rendu public, il est bien évident que le Congrès va continuer à ses propres enquêtes, qui sont d'ailleurs en cours par ailleurs à la Chambre. Donc l'affaire n'est pas terminée, mais ce qu'il faut savoir, et le plus important je crois, c'est que là on est dans une campagne électorale dont l'issue est dans un an et demi, et que le temps est très court. Donc même si l'enquête continue, même si finalement les démocrates mettent au jour avec les tribunaux fédéraux, parce qu'il y a aussi des choses qui sont... des enquêtes qui sont en cours dans les tribunaux fédéraux, mettent toujours une éventuelle culpabilité de Trump et poursuivent les investigations. Ce qui compte, c'est que là, le clan Trump a regagné la confiance, qu'il est en mesure de relancer une stratégie populiste disant, vous voyez, les démocrates sont aigris d'avoir perdu en 2016, ce sont eux les menteurs, tout le monde est contre moi, l'establishment est contre moi, mais vous voyez bien que c'est moi qui ai raison. Donc, en jouant la carte de la victimisation, en se présentant comme le vainqueur d'une cabale collective contre lui, et bien finalement la stratégie de Trump, qui est un président toujours déjà en campagne, fonctionne. Mais ce qu'on voit par ailleurs, c'est que d'après les enquêtes d'opinion qui ont été faites depuis les quatre pages rendues publiques par l'attorney général Barr, c'est que chaque camp campe sur ses positions dans l'électorat.
Mais Marie-Cécile Nave, pardonnez-moi, quand vous dites Trump joue la victimisation, est-ce qu'il n'a pas justement des raisons tout à fait concrètes de jouer cette partition-là? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a vraiment eu une campagne véritable contre Trump menée par l'opposition politique, les démocrates, ce qui peut sembler assez normal, mais aussi peut-être par une partie des médias américains? Est-ce que ça, en tout cas, c'est quelque chose qui peut être débattu et réfléchi aux États-Unis aujourd'hui?
Lui, il va le dire, en tout cas. Et lui, il le dit déjà. Il les appelle les ennemis du peuple, les fake news médias. Ça entretient sa stratégie très forte de disqualification des médias qui ne sont pas forcément d'accord avec lui ou bien qui cherche à investiguer sur sa politique. Moi, je qualifierais pas forcément les médias d'anti-Trump parce qu'ils sont dans un rôle d'enquête et d'information, même si aux États-Unis, la presse est beaucoup plus polarisée qu'en France, par exemple. Il faut pas oublier qu'il a aussi des médias qui le soutiennent mordicus et qui sont extrêmement influents, extrêmement puissants. Il y a Fox, mais il y a aussi les chaînes de radio conservatrices que les gens écoutent beaucoup dans leur voiture, dans le Midwest, et qui, eux, sont beaucoup plus, ou même à l'inverse, même du New York Times, dans une stratégie de propagande, de fake news et de mensonges, qui n'est pas le cas des grands médias sérieux dont on a parlé.
C'est donc, cette polarisation, leur Mandeville, c'est quelque chose qui définit aujourd'hui le paysage politique et médiatique américain. Est-ce que c'est une polarisation dont vous diriez qu'elle n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui?
Alors, je ne sais pas si je dirais qu'elle n'a jamais été aussi grande, parce que c'est ce qu'on dit en général, parce qu'on oublie le passé, et que au fond, quand vous regardez la scène politique américaine dans les années 60, où on a quand même un président qui est assassiné, un candidat, son frère, qui va l'être aussi, où vous avez, où il y a eu un choc absolument terrifiant aussi entre la droite et la gauche à cette époque-là, la période Reagan, la période Clinton, c'est des périodes très très dures aussi. Mais c'est vrai qu'on est dans une période où ce que disent beaucoup de politiques et d'observateurs américains, c'est que le centre a disparu, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus de démocrates qu'on appelait les Blue Democrats, des démocrates conservateurs, et il y a très peu, ou quasiment plus non plus, de républicains modérés. Et donc ça pose un vrai problème, parce que en fait, il y a une espèce de polarisation, et les gens qui sont sur une position un peu modérée, justement, souvent sont pris à partie par les autres. Et je me souviens, par exemple, pendant l'affaire Brett Kavanaugh, où il y a eu cette sénatrice Susan Collins, candidat à la Cour suprême, et qui a provoqué cet épisode absolument homérique de déchirement de l'Amérique, avec ce hearing dont on s'en souvient, absolument terrible, où les deux parties, tout le pays regardait haletant, avec ceux qui détestaient cet homme et ceux qui le soutenaient. Et il y a cette sénatrice républicaine qui est connue pour être une modérée et qui décide qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour dire que Kavanaugh est un violeur et que donc il est un harasseur, et que donc elle va le soutenir. Elle pèse le pour et le contre, et elle dit on ne peut pas, et donc elle le soutient. Elle reçoit pendant des semaines des menaces de mort et même de viol en série à son cabinet, etc. Et je dirais que c'est exactement la même chose pour des démocrates par rapport à des partisans républicains qui peuvent aussi complètement péter les plombs et faire la même chose. Donc je pense qu'on est dans une situation qui est très problématique. Regardez, sur cette histoire de Mueller, les démocrates n'en démordront pas. Ils vont continuer à faire des enquêtes, et on dit il y a des enquêtes en cours contre lui, mais elles n'ont rien à voir avec la collusion. Encore une fois, il y a des enquêtes pour ces histoires de femmes qui l'accusent de les avoir harcelées. Il y a des histoires financières, mais cela n'a rien à voir avec l'histoire de la collusion, qui est en soi une histoire très importante. Et de l'autre côté, vous avez les républicains qui sont en train de se polariser, par exemple, sur le mot socialiste, d'essayer de discréditer un candidat comme Bernie Sanders en présentant le socialisme comme quelque chose, tout candidat qui soutient par exemple la réforme Obama comme des personnages terrifiants, ou ceux qui soutiennent le climat. Donc en fait, on est dans un climat où on ne peut plus avoir finalement un dialogue politique sur des sujets pourtant absolument réels et importants.
Vous partagez ce constat, Adam Nociter. Aujourd'hui, aux États-Unis, on est obligé presque de choisir son camp. On est soit du côté des démocrates, soit du côté des républicains, mais il n'y a pas de juste milieu.
Je crois qu'on vit effectivement un épisode aux États-Unis de grands affrontements et de polarisation. Mais je crois aussi que Laure a raison de souligner notre histoire récente. les années 60 était une période d'énormes affrontements, polarisations, haine entre ceux qui étaient pour, par exemple, les lois pour les droits humains et ceux qui étaient contre. Il y a eu des assassinats, il y a eu des émeutes, il y a eu les émeutes à Chicago en 68. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Les gens ne descendent pas dans la rue. Il n'y a pas de violence politique telle qu'on la connaissait dans les années 60.
Est-ce qu'il peut y avoir une crainte que des violences politiques adviennent, justement, du fait de cette polarisation importante ?
Je ne crois pas, sans être, on pourrait jamais être à 100% sûr. C'est vrai que les passions, il y a une grande crispation et les passions sont assez aiguës et remontées. Je crois qu'il y a une certaine confiance dans les institutions. Et la démarche de Monsieur Mueller a renforcé cette confiance. C'est les institutions qui vont résoudre les problèmes.
Et quelle part de responsabilité vous attribueriez à Donald Trump dans ces crispations actuelles ? Est-ce que vous diriez que le principal peut-être responsable de l'anti-Trumpisme, c'est Donald Trump lui-même, Adam Nociter ? Et ce sera la même question pour vous, Marie-Cécile Nave, ensuite.
C'est sûr, c'est prouvé que la stratégie de Trump depuis le début, c'est d'enflammer les passions des gens, d'inciter les gens à jouir pleinement de leur haine, que ce soit pour la presse, pour mon journal, qui est qualifié spécifiquement par lui comme ennemi du peuple, que ce soit pour les immigrés, pour les Mexicains, pour les Noirs. Trump joue sur la haine. Et il incite la meute, il rameute la meute dans ses grands meetings à éprouver une sorte de haine libératrice. Il continue à faire cela. Donc il faut attribuer une grande partie de responsabilité pour le climat tout à fait délétère qui prévaut chez moi maintenant à ce monsieur. Je suis d'accord.
Marie-Cécile Nave.
Oui, la société américaine est profondément clivée, ça a été dit, ça date pas de Trump, ça s'est fait progressivement au fil des décennies. Sous Obama, c'était très clivé aussi, les pros et les anti-Obama, mais ce qui est sûr, c'est que Trump non seulement accentue ça, mais il le fait délibérément et il prospère dessus. Il prospère sur le chaos qu'il engendre lui-même, sur les questions identitaires, sur les questions d'immigration, sur les questions aujourd'hui de santé. Par exemple, il continue à entretenir les oppositions très fortes entre les riches et les pauvres, entre le patriarcat et les femmes, entre bien sûr les minorités ethniques, religieuses et les autres, et la majorité protestante. Et donc ça fait aussi partie de sa stratégie finalement de se présenter comme étant le seul capable de mener le pays, de remener le pays vers une grandeur dont on ne sait pas très bien à quoi elle correspond, si ce n'est une Amérique blanche, patriarcale et fermée sur lui-même. Donc oui, il y a une forte responsabilité dans le climat de violence politique qui existe, qui n'est pas forcément dans la rue, mais qui est sur les réseaux sociaux, qui est sur Internet, qui est dans certains médias extrémistes. Là-dessus, on a aussi des éléments, des enquêtes qui montrent que les actes anti-musulmans ont augmenté depuis que Trump est au pouvoir, que le suprémacisme blanc prospère depuis que Trump est au pouvoir, que le masculinisme est extrêmement présent et même renforcé, se sent légitimé sur Internet. Donc oui, il y a une part de responsabilité très forte de ce président dans l'entretien d'un clivage ou de plusieurs clivages sociaux qui étaient certes là avant, mais que lui-même assume et contribue à renforcer.
Alors, Mandeville.
Oui, alors moi, je trouve quand même qu'il est caricatural de dire que Trump serait le seul et serait le principal, comment dire, vecteur justement de la radicalisation et des attaques, de tout ce que vous dites, par exemple sur la question identitaire. Il me semble qu'on ne peut pas comprendre ce que représente Trump et la réaction, le soutien qu'il a obtenu d'une très large portion de la population, si on ne comprend pas l'exaspération d'une grande partie d'Amérique sur justement la manière dont la gauche a exacerbé la question des identités en mettant en avant de manière systématique justement la bataille sur le plan du genre, sur le plan des minorités, etc., etc. Et je crois que cette l'élection de 2016 est en réalité la démonstration qu'il y a un ras-le-bol dans une grande partie de la population de la manière dont Hillary Clinton et la gauche américaine en général a utilisé cette question des identités pour essayer de gagner la présidentielle. Et que ça a été un flop.
Il n'y a pas eu de réflexion au sein de la gauche
justement,
après
je,
ça
ce que je trouve absolument fascinant aujourd'hui, c'est que loin de mener cette espèce d'autopsie de leur échec et de remettre en cause cette approche basée sur justement la permanente retour à on est des femmes, on est des noirs, on est des gays, etc. Donc on va, c'est comme ça qu'on va fédérer notre mouvement. Ça continue. Regardez par exemple comment aujourd'hui le féminisme radical qui prospère dans les universités américaines est en train de se retourner contre un des principaux candidats démocrates et j'ai nommé Joe Biden. Joe Biden, qui jusqu'à présent était considéré comme un homme tout à fait honorable, ce qu'il est, décent, exubérant certes, mais un type, je dirais, assez formidable, pour lequel moi j'ai personnellement beaucoup de respect, et qui se retrouve aujourd'hui harcelé et dénoncé par une partie justement de cette gauche radicale, parce que deux femmes se sont plaintes de la manière dont il les avait justement, même pas du tout harcelé, mais apposé ses mains sur elle ou toucher les cheveux, etc. Parce qu'il a cette espèce de style dont on sait que dans toutes les meetings, il embrasse les gens, les femmes, les hommes, etc. Parce que c'est un homme exubérant et chaleureux. Et donc là, il me semble qu'on est dans un puritanisme de gauche identitaire précisément sur la question des femmes qui va très très loin et qui entretient aussi un climat qui fait que de l'autre côté, il y a une radicalisation aussi. Donc ce n'est pas une des parties qui est responsable, mais je pense que Trump est justement la réaction, une espèce de « y en a marre » de l'autre partie de l'électorat qui ne se reconnaît pas dans cette idéologie.
J'entendais que Marie-Cécile Nave voulait réagir. Est-ce que la gauche effectivement n'a pas oublié de tirer les leçons de son échec de 2016? On a l'impression que les mêmes erreurs sont reproduites aujourd'hui. Marie-Cécile Nave.
Oui, mais en disant ça, vous justifiez finalement le masculinisme de Trump, c'est-à-dire que Trump...
Ah, je ne justifie rien, moi, attention. Hein.
Je ne sais pas ce que c'est que le masculinisme, à vrai dire.
En disant ça, finalement, on dit que... C'est comme si on excusait le fait que Trump veuille restaurer une Amérique patriarcale, qu'il veuille limiter les droits des femmes, qu'il y ait une bataille extrêmement dure aujourd'hui contre l'accès à l'avortement. Et peut-être que le cas Biden, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui aux États-Unis il y a une acceptation sociale moindre de la violence sexuelle et sexiste contre les femmes, et c'est plutôt quelque chose qu'il faut envisager au regard de la présidence Trump. La présidence Trump, elle met au jour que finalement il y a beaucoup de gens qui n'acceptent plus qu'on puisse harceler les femmes en toute impunité, qu'on puisse dire que les femmes sont inférieures aux hommes, qu'on puisse vouloir restaurer une société patriarcale, comme je le disais. Donc les temps changent, il y a une faible acceptation sociale du sexisme, et c'est plutôt ça aussi qu'il faut regarder.
Adam Nociter, est-ce que les démocrates, selon vous, depuis 2016, ont tiré les leçons de leur échec? Le constat, c'était quand même de dire il y avait une Amérique qui se sentait oubliée, notamment par les grandes métropoles, que pouvaient être par exemple justement New York, Los Angeles ou Washington. Est-ce que les démocrates ont réussi à renouer quand même le contact avec une partie de cette Amérique qui se sentait délaissée et qui a peut-être porté son vote pour en faveur de Donald Trump?
Oui, je vois des signes justement de cela dans la partie des démocrates qui se focalise non sur ces questions identitaires dans lesquels c'est sûr que la gauche fait une sorte de surenchère qui les ridiculise. Et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Laure sur, par exemple, le procès qu'on fait à Joe Biden maintenant, qui est absolument ridicule et indéfensible, à mon avis. Mais il y a une partie des démocrates, quand même, qui se focalise sur les questions sérieuses, c'est-à-dire l'accès à la santé, la question de l'inégalité économique, qui est extrêmement pressante aux États-Unis. On a un niveau d'inégalité qui est inimaginable chez vous et dans les autres pays européens. Et donc, il y a des démocrates au Congrès qui sont sérieux et qui prônent une focalisation, justement pour la campagne de 2020, sur les questions essentielles pour la classe moyenne américaine et qui laissent à côté tous ces balivernis identitaires dont se raffole une partie de la gauche américaine.
Est-ce que vous diriez justement que ce sont sur les questions économiques et sociales qu'on peut apercevoir les principaux points de vulnérabilité aujourd'hui pour Donald Trump? Parce que son bilan, tel qu'il le présente, en tout cas, n'a pas l'air si mauvais. Le chômage est assez bas. Ce qu'il mène avec la Chine, la défense quand même du tissu économique américain, ça a l'air de payer. Donc sur ce point de vue-là, c'est peut-être pas là qu'il est le plus vulnérable, Adam Nociter.
Je crois que c'est une de ces vulnérabilités. Le taux de croissance n'est pas si fameux que ça, à 3%. C'est vrai que le chômage est bas, mais il y a plein d'emplois qui sont mal payés, qui ne promettent pas un grand avenir pour ceux qui les détiennent. Et en plus, la fosse des inégalités s'est creusée comme jamais. Sous la présidence Trump. Il n'y a jamais eu autant d'inégalités dans notre pays. Donc oui, je crois qu'il est vulnérable de ce côté-là, aussi sur le plan de la santé, parce que les sondages aujourd'hui montrent que c'est la préoccupation numéro un des Américains d'avoir accès aux santé.
Laure Mandeville.
Oui, je pense que moi je suis complètement d'accord avec Adam et complètement d'accord aussi, à la fois sur ce qu'il dit sur les identitaires qui, à mon avis, ont perdu la tête.
On avait compris que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec Marie-Cécile Nave.
Mais aussi sur cette idée que c'est vrai qu'il y a au sein du Parti démocrate aujourd'hui une bataille. Justement, entre ces deux groupes, entre ceux qui pensent qu'il faut porter l'attention sur les questions comme la santé ou le social, et que là, il y a un terrain propice. Et ce qui est intéressant sur cette histoire, d'ailleurs, moi qui ai suivi la campagne de Donald Trump, c'est que Trump, en réalité, parce que ce n'est pas du tout un républicain typique, était au début pour un système de couverture santé universelle au début de sa campagne. Et quand il a été intronisé par le Parti républicain, tous les bataillons justement complètement dressés sur qui voulaient absolument pas de ça au sein du Parti républicain l'ont forcé à changer son point de vue et à embrasser l'idée qu'il fallait abroger Obamacare, ce qu'il a fait et qui, à mon avis, aujourd'hui lui revient d'une certaine manière en boomerang. En d'autres termes, je dirais que Trump est lui-même aussi d'une certaine manière la victime de ce système bipolaire, parce que il se serait bien vu comme un homme capable de faire de la triangulation, aller chercher les démocrates sur des questions justement comme la santé ou comme les infrastructures, un dossier sur lequel il aurait voulu faire des choses avec les démocrates. Et là, il est freiné par sa propre base. Donc il est d'un côté et il est renvoyé à sa base.
Et comme il est attaqué... Peut-être aussi par son propre caractère quand même, non ?
Oui, son caractère aussi, mais en même temps, il s'est toujours vanté d'être un homme de la négociation, et je pense que s'il avait pu, il aurait fait des ouvertures. C'est vrai que, aussi, la manière dont il a été complètement, si vous voulez, violenté, disons, de la manière rhétorique et politiquement par les démocrates, ne l'a pas poussé non plus à aller au compromis.
Ben voilà, c'est sur ce constat que nous allons nous quitter pour ce soir. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Laure Mandeville, Marie-Cécile Nave et Adam Nociter. Discussion que vous pourrez retrouver sur notre site internet franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Vous pouvez également télécharger l'émission, nous écrire et retrouver d'ici quelques heures des extraits vidéo de la discussion. Merci à l'équipe du Grain, Virginie Le Duo, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster et Cyril Marchand. Émission réalisée par Émilie Valla, avec à la prise de son Clément Daté. Dans un instant, ce sera Arnaud Laporte pour la dispute.
T'as l'air de vous surprendre, mais c'est un peu comme ça chaque soir finalement, non?
Oui, c'est un petit peu ça, bon, tous les soirs.
Ce qui est plus rare, c'est qu'on parle de BD, c'est le cas. Ce sera le cas dans 3 minutes, et demain, le Club des Idées?
Un ancien président ne devrait pas dire ça. Mmh. On parlera notamment de François Hollande, Nicolas Sarkozy, Valéry Giscard d'Estaing, pourquoi pas. Tous les anciens présidents de la 5e.
J'avais oublié Jacques Chirac. Merci beaucoup. Hervé Gardette, on sera à l'écoute demain. Il est 19h. Vous écoutez France Culture, les titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.